Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Il est midi, bonjour, soyez les bienvenus. 12h, 14h, vous connaissez le rendez-vous, nous sommes vendredi, c'est Midi News Weekend évidemment. 2 heures d'infos non-stop avec des témoignages, des reportages et des débats. Je vous présente l'équipe de grands témoins qui m'entoure dans quelques instants, mais tout de suite, le sommaire de notre première heure. À la une, on va revenir sur la marche blanche qui s'est déroulée ce matin à Grande-Synthe, que vous avez pu vivre en direct sur l'antenne de CNews. Marche blanche en hommage à Philippe, victime d'un guet-apens. On sera sur place avec nos envoyés spéciaux Maxime Legay et Olivier Gangloff. On fera un point complet sur l'enquête également. On reparlera aussi de ce qu'a déclaré hier Gabriel Attal. Le Premier ministre veut un sursaut d'autorité face à la violence des adolescents. Tout cela fait évidemment débat, réaction et décryptage sur notre plateau. Enfin, on s'y attendait. Israël a riposté cette nuit en frappant l'Iran. On retrouvera Régine Delfour, notre envoyée spéciale en Israël. Et maintenant, oui, maintenant, que va-t-il se passer? Harold Diman, notre spécialiste des questions internationales, sera avec nous. Voilà pour le menu de notre première heure. Tout de suite, on fait un tour de l'info complet avec Somaya Labidi en ce vendredi. Somaya, que je salue. Bonjour.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. C'est l'un de vos thèmes de débat, Thierry, la piste du guet-apens privilégié dans l'agression mortelle de Philippe à Grande-Synthe. Selon nos informations, les deux suspects se sont fait passer pour une jeune femme sur un site de rencontre et tendre un piège à la victime. Beaucoup d'émotions lors de la marche blanche en hommage au jeune homme de 22 ans. Je vous propose d'écouter ces témoignages.
Ce gamin, il était sans histoire, très joyeux. Problème, aucun problème. Et puis on est vraiment tous dévasté de cette histoire, quoi.
Ça fait trop mal. Moi, j'ai resté 30 ans à Grande-Synthe, j'ai jamais vu ça. Là, ça fait 8 ans, je suis à 11 ans d'âge, j'attends ça, ça fait mal.
On n'est plus à l'abri.
On n'est plus à l'abri, non. Ça fait trop mal.
J'ai jamais vu ça, jamais vu ça. Ça fait 3 jours que j'arrive pas à dormir tellement que quand j'ai appris ça, j'ai... C'est affreux, c'est terrible, je peux pas imaginer.
On comprend pas le geste. Moi, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, ce geste-là... C'est de la barbarie que je ne comprends pas du tout, c'est l'horreur.
On en sait un peu plus sur le profil de l'agresseur de deux jeunes filles hier dans le Bas-Rhin. L'homme qui a donné une fausse identité a fait 3 séjours en psychiatrie. Retour sur les faits avec ce sujet signé Célia Gruyère et Camille Guédon.
Il est aux alentours de 14h à Souffel-Weyersheim lorsqu'un homme s'en prend subitement à deux fillettes de 11 et 7 ans à proximité d'une école. Armé d'un couteau, il les blesse légèrement. L'alerte est alors donnée dans l'établissement. Une petite fille raconte la scène.
J'ai vu qu'il y avait un homme qui avait un couteau en main et qui voulait blesser une fille, mais je ne sais pas comment elle s'appelle. Et je suis tout de suite allée vers me ranger parce que c'était l'heure. On nous a confinés. On est resté là jusqu'à ce que ça sonne.
Le suspect, âgé de 30 ans, a aussitôt été interpellé et placé en garde à vue. Sans antécédents judiciaires, il a fait 3 séjours en établissement psychiatrique. L'individu était en rupture de traitement depuis novembre 2023 et avait fait une tentative de suicide en 2022. Une cellule d'urgence médico-psychologique a été mise en place au sein de l'école.
Et puis on l'a appris ce matin, une adolescente de 14 ans victime d'un arrêt cardiaque lors du confinement de son collège après l'attaque au couteau est décédée. À la une de l'actualité internationale, la riposte israélienne contre Téhéran. De fortes explosions ont été entendues dans le centre du pays et plusieurs drones auraient été abattus par la défense aérienne iranienne. Les sites nucléaires n'ont subi aucun dégât, précise l'AIEA, agence internationale de l'énergie atomique. De son côté, Israël refuse de commenter ces informations pour le moment. Et puis, direction les États-Unis pour finir ce journal. Le jury indispensable à la bonne tenue du procès de Donald Trump est presque au complet. Ne manque plus que les 6 suppléants pour entrer dans le cœur du dossier. Un procès fustigé par le principal intéressé.
Je suis assis ici depuis des jours maintenant, du matin au soir, dans cette pièce glaciale, gelée. Tout le monde gelait là-dedans, et tout ça pour ça. Et voici le résultat. En le regardant, chacun d'eux a une histoire et c'est une très mauvaise chose. Le monde entier regarde ce canular. Vous avez un procureur qui est hors de contrôle, vous avez un juge très conflictuel, tout cela est un désastre et vous avez le candidat en tête. Et de loin devant, le véreux Joe Biden, c'est lui qui devrait avoir des ennuis. C'est un escroc. Vous avez un président corrompu. Il devrait être jugé pour tout ce qu'il a fait et avec sa famille.
Voilà ce qu'on pouvait dire de l'actualité à midi, Thierry.
Merci beaucoup, ma chère Somaïa. On vous retrouve dans 15 minutes, c'est bien ça ? Et nous serons au rendez-vous, bien évidemment. Allez, Mini News Weekend, c'est parti. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Je vous présente mon plateau de grands témoins du jour. Naïma M. Fadel, une fidèle essayiste. Soyez la bienvenue. Je suis ravi de vous accueillir. Pierre-Henri Bovis, avocat.
Bonjour, Thierry.
Bonjour, Pierre-Henri. Joseph Touvenel, fidèle aussi. Directeur de rédaction Capital Social.
Vous êtes bien bronzé aujourd'hui.
Oui, j'ai pris le soleil, oui, c'est vrai. J'ai pris le soleil espagnol, pour tout vous dire. Najwa Alaïté, ravie de vous accueillir également,
ravie
avocate.
Ravie également d'être présente.
Allez, on commence cette émission par cette marche blanche que vous avez pu vivre sur notre antenne sur CNews, qui était organisée ce matin à Grande-Synthe. Marche blanche en hommage, vous le savez, à Philippe, victime d'un véritable guet-apens mortel. Ce sont des ados qui ont roué de coups ce travailleur social. Il lui avait donné rendez-vous sur un site de rencontre en se faisant passer pour une jeune fille. On va retrouver sur place notre équipe qui vous a fait vivre cette marche blanche, Maxime Leguet et Olivier Gangloff. Bonjour Maxime, beaucoup d'émotions évidemment. On a pu le vivre grâce à vous à Grande-Synthe depuis ce matin.
Oui, bonjour Thierry. Effectivement, beaucoup d'émotions. Au tout début de cette marche blanche, il s'est mis à pleuvoir comme un symbole, comme si le ciel lui aussi pleurait Philippe. Ils sont près de 1500 habitants de Grande-Synthe et des proches à être venus rendre hommage à Philippe et marcher en silence avec cette banderole simple, sobre et digne. Hommage à Philippe, une marche silencieuse, on entendait les sanglots des gens, des pleurs des gens, des larmes qui coulaient sur les visages, les proches de Kelvin bouleversés, évidemment les frères Kelvin et Dylan qui sont allés poser des bouquets de fleurs sur le lieu, sur le parking, là où Philippe a été retrouvé pour mort, gisant sur le sol dans la nuit de lundi à mardi soir. Il était accompagné du maire, des amis de Philippe qui ont ensuite pris la parole ici derrière moi sur ce petit podium juste devant la maison communale. Philippe n'est pas un fait divers, voilà le mot qu'a prononcé Yacine, ici l'ami de Philippe, s'en est suivi les cousines et puis le maire de la ville qui a parlé d'un drame, d'une tristesse incommensurable. Alors les habitants sont tristes, mais ils demandent aussi des réponses, que justice soit faite, voilà ce que disent les habitants ici, une réponse pénale et la justice à la hauteur de ce drame. On en saura sans doute davantage pour ce qui est du déroulé de l'enquête avec une prise de parole du procureur de la République de Dunkerque qui doit s'exprimer en fin de journée ici, mais comme vous pouvez le voir l'émotion ici est encore palpable.
Merci beaucoup Maxime Leguet, accompagné par Olivier Gangloff, et cette intervention du procureur sera à vivre évidemment en direct sur notre antenne sur CNews. Beaucoup d'émotions, Maxime nous le disait. Je vous propose d'écouter le témoignage d'un des proches de Philippe.
Entendre la vérité et pour que Philippe ne soit jamais oublié. Marcher comme on prie, sans un bruit, avec recueillement et sincérité. Marcher longtemps, aussi longtemps que dure la mémoire. Marcher pour maintenir vivants les souvenirs de notre bien-aimé. Marcher pour que le long silence du deuil trouve un écho en ce monde et que notre voix soit entendue. Et si sur le chemin, un mot vous vient, si vous devez formuler un hommage, si vous devez vous indigner, si vous devez dire un mot de soutien ou d'amour, si nous devons porter haut une parole pour que la vie jamais ne s'arrête, nous dirons haut et fort que justice soit faite. Pour Philippe.
Et avant de faire réagir mes grands témoins du jour, je vous propose d'écouter le maire de la commune, évidemment.
La justice doit passer, pas celle des réseaux sociaux, sur lesquels les extrêmes se délectent, stigmatisent, déforment et inventent à des fins nauséabondes. La justice doit passer, celle de la République, indivisible, celle de la République et de ses valeurs que nous défendons chaque jour. Liberté, égalité, fraternité.
Le message, Naïma, du maire de la commune est clair. L'injustice doit passer.
Oui, évidemment, la justice doit passer, mais aussi le temps d'une politique forte, ferme, qui permette aussi qu'on ne soit plus à assister pratiquement tous les jours
à
ces marches blanches
qui se succèdent.
Et puis à se dire, malheureusement, avec beaucoup de regrets, à la suivante. C'est terrible, c'est insupportable. Aujourd'hui, on n'est plus en capacité dans notre pays d'empêcher de telles barbaries, de tels crimes extrêmement sauvages de la part de notre jeunesse. Rappelons-nous que ce sont des mineurs. Et moi, quand j'entends le maire, je suis désolée de le dire ainsi, mais qui dans son discours politise comme si nous ne devions pas réagir. Comme si nous ne devions pas avoir de l'émotion et puis être en colère aussi, parce que tout de suite, ils parlent d'extrême droite, d'extrémistes qui prennent la parole. C'est extrêmement difficile aujourd'hui, je vous le dis, pour moi-même qui suis maman, d'entendre ce maire qui pourrait avoir un autre discours, comme d'ailleurs le discours du maire de Viry-Châtillon.
De Viry-Châtillon qu'on a accueilli sur ce plateau.
Responsable.
Alors on a deux avocats sur ce plateau. Lorsque vous entendez le maire de la commune, Pierre-Henri Bovis, dire la justice doit passer en tant qu'avocat, évidemment, vous ne pouvez que souscrire.
Oui, c'est une phrase d'une banalité sans nom. Évidemment que la justice doit passer, mais c'est fait là.
Mais point suspension, quoi.
Non, mais c'est que ces faits-là ne sont pas des faits isolés. Ce sont des faits qui se multiplient sous différentes formes et qui sont symptomatiques d'une société qui est profondément malade et qui a un mal qui est ancré. Naïma parlait de la jeunesse. Il y a fondamentalement un problème d'accompagnement, un problème d'éducation. Je pense que la justice, évidemment qu'elle doit faire son travail, mais si vous voulez, une fois que la justice aura fait son travail, elle aura condamné. Ce n'est pas pour autant que ces faits-là ne se reproduiront pas avec d'autres jeunes et avec d'autres personnes. Et qu'il y aura d'autres marches blanches, et qu'il y aura d'autres politiques qui prendront la parole pour dire que la justice doit passer, etc., etc., etc. Vous savez, ces faits-là, on est amené à les voir passer sur ce plateau.
À les commenter.
On en voit passer des dizaines. Je veux dire, on ne peut même plus les compter. Donc, évidemment, il faut que la justice passe. Il faut aussi que, à mon avis, le message soit fort, c'est-à-dire que vous savez, aujourd'hui un mineur ne peut pas être condamné à plus de la moitié de la peine d'un majeur. En clair, il risque, là, avec la cour d'assises des mineurs, ces jeunes, ils risquent, si l'instruction aboutit à un renvoi et donc à une condamnation derrière, jusqu'à 20 ans. Donc il faut que, évidemment, ces mineurs qui seraient tentés à tomber dans la violence aient conscience aussi de la portée de leur acte et ce qui peut leur arriver derrière, parce que c'est déjà, ce sont des vies brisées d'un côté, mais c'est aussi leur vie brisée. Et, à mon avis, il faut aussi que les politiques, de tous bords, se saisissent de ce sujet et essayent de réparer, si c'est encore possible, j'en sais rien, mais de réparer ce mal qui est, encore une fois, profondément ancré dans une jeunesse qui est en perdition totale.
Ce qui est terrible, Najwa, c'est que des marches blanches, on en a commenté je ne sais pas combien, et à chaque fois, on dit, et c'est toujours les messages que l'on entend chez ces personnes qui viennent, qui disent « plus jamais ça ». Et malheureusement, les jours se suivent et se ressemblent. Et là, on a encore des adolescents de 14 et 15 ans qui ont battu à mort ce jeune homme. L'enquête se poursuit, évidemment, on en saura un peu plus. Mais,
oui, tout le monde est d'accord pour dire en effet que les marches blanches s'additionnent concernant ces faits divers. D'ailleurs, on est plusieurs à dire qu'il ne s'agit plus de faits divers, mais de faits de société, puisque l'actualité en fait état tous les jours. Et quand c'est visible, parce que nous sommes avocats et on peut vous dire qu'il y a des faits, mais d'une violence inouïe, où en effet la réponse de la justice est fortement attendue, la réponse pénale est très fortement attendu, mais il y a l'effet divers qu'on met en lumière et ceux qu'on ne met pas en lumière.
Oui, il y a cela aussi, vous avez raison.
Tout aussi dramatique, et mon confrère et moi, on est amené à les traiter. Donc, d'ailleurs, je relevais que le premier ministre Gabriel Attal parlait d'actes de barbarie. tellement les faits ont été d'une violence inouïe. Il s'agissait pour ces mineurs, je rappelle en effet qu'il s'agit de mineurs, de voler, en fait, de trouver un appât sur Internet, de se faire passer pour une jeune femme ou une jeune fille et d'appâter donc Philippe, la victime. Et ça s'est traduit par un vol de ses affaires, de son portable. Enfin, on en est là. On est face à des mineurs qui n'ont plus d'empathie, qui n'ont plus d'humanité. Et puis, je suis désolée, j'utilise le terme de sauvage. Puisque quand on n'a plus l'humanité qui va avec, oui, on peut parler de sauvage. Vous me direz, ces faits-là ne sont pas nouveaux. Pourquoi je dis ça? Parce que les méthodes où il y a un appât, où on sait, enfin, on utilise une jeune fille. D'ailleurs, il y a eu un fameux film, L'appât. Qui relatait d'ailleurs un fait divers, mais qui était réel.
C'est réel, ouais.
Et il y a aussi cette terrible affaire en 2006, souvenez-vous, Ilan Halimi.
Bien sûr.
Où une jeune femme a Bien été sûr. Servie d'appât. Et ce crime a été un crime, enfin, considéré par les juges comme un crime crapuleux et antisémite. Parce que, soi-disant, les juifs ont de l'argent. Et donc, Ilan Halimi avait de l'argent qu'on pouvait voler. Donc ça date de 2006. Donc tout ça pour vous dire que ces faits ne sont pas nouveaux. Simplement, moi je ne suis pas sociologue, peut-être que ça s'aggrave, j'ai envie de vous dire, par rapport, et je rebondis sur ce qu'a dit mon confrère, par rapport à une société qui devient de plus en plus violente.
Je vous donne la parole juste après, Joseph Tounel, sur le sujet. On poursuit évidemment sur cette marche blanche, mais il est 12h15, Somaïa est au rendez-vous évidemment. On fait un tour de l'info et je vous donne la parole juste après, Joseph.
À la une de l'actualité, Thierry, on en sait un peu plus sur le profil de l'agresseur de deux jeunes filles hier dans le Bas-Rhin. L'homme qui a donné une fausse identité aux policiers a fait 3 séjours en psychiatrie et a été suivi jusqu'à une rupture de son traitement en novembre dernier. Washington a mis son veto à l'adhésion pleine et entière des Palestiniens aux Nations Unies, décision aussitôt fustigée par l'autorité palestinienne, y voyant, je cite, une agression flagrante qui pousse le Moyen-Orient au bord du gouffre. Et puis un peu de Lady Di à Hong Kong, des robes, des vestes et des accessoires de la princesse Diana exposés dans un centre commercial de la ville. Les pièces seront ensuite présentées en Irlande avant d'être mises aux enchères au mois de juin.
Et on se retrouve dans 15 minutes. Absolument. Allez, à tout à l'heure, Somaïa. On poursuit sur cette marche blanche. Avant de vous donner la parole, Joseph, je voulais qu'on fasse un point global sur l'enquête. On voit ça avec Camille Guédon.
Puis violemment tué. Philippe, retrouvé gisant sur le parking d'un supermarché de Grande-Synthe dans la nuit de lundi à mardi, a-t-il été victime d'un guet-apens ? Selon nos informations, deux suspects âgés de 14 et 15 ans et placés en garde à vue ont expliqué avoir créé le profil d'une jeune fille sur un site de rencontre et donné rendez-vous à un jeune homme pour, disent-ils, le punir. Ce qui pourrait expliquer pourquoi il a été retrouvé à terre avec le pantalon baissé sur les chevilles. Désormais, les policiers doivent déterminer si les suspects ont bien donné rendez-vous à Philippe ou à une autre personne. Car au moment de l'agression, Philippe était au téléphone avec un ami qui a entendu les deux suspects l'interpeller avant le passage à tabac. Les agresseurs lui auraient demandé s'il était sur un site de rencontre. Ce à quoi Philippe aurait répondu qu'il était au téléphone avec un ami. Le mineur de 14 ans est suspecté d'avoir été le plus violent. Ces deux jeunes sont décrits comme issus de milieux familiaux très compliqués. Des investigations sont actuellement en cours pour savoir si les suspects sont liés à d'autres agressions, notamment celle d'un homme de 39 ans qui a subi des violences deux jours avant l'agression de Philippe.
Et on le voit, Joseph Touvenel, dans cette synthèse sur l'enquête de Camille Guédon, elle le dit, ces jeunes sont issus de familles très compliquées. On en revient à ce que vous évoquiez, et souvent le rôle des parents, etc., etc., quoi.
Alors oui, il faudrait voir un peu plus, mais on voit que l'explosion des familles, c'est pas une découverte, n'aide pas ce qui est des enfants qui soient bien équilibrés. S'il y a des violences intrafamiliales, l'enfant devient lui aussi violent. Mais cela dit, plus globalement, on a ce meurtre abominable, mais quand on regarde les attaques au couteau, etc., on se dit quand même qu'il y a une faillite de l'État à assurer la sécurité, ce qui est un devoir régalien de l'État, et que plus il y a cette faillite de l'État, plus la violence monte. Alors il y a ceux là, nous disent ces gamins meurtriers, on voulait punir.
Et on voit monter, effectivement, des espèces de milices. Alors, des milices qui veulent faire régner l'ordre dans leur rue, des milices qui veulent être des milices des mœurs. Oui, quand l'État renonce, eh bien, on a la violence, la sauvagerie, la barbarie qui monte. Nous y sommes, malheureusement. Et pour revenir en arrière, ça va être long et difficile.
Et ça, j'ai l'impression qu'on le répète à longueur de plateau. Hein.
Et puis, regardez ce maire. Il y a deux jours, il parlait, après les faits, de sentiment d'insécurité. Et là, dans son discours, il est en train de nous parler des extrémistes. Mais enfin, où ils sont les extrémistes? Les extrémistes, ce n'est pas ceux qui tuent dans sa ville, et il va les chercher ailleurs. On a l'impression que pour certains, et dans la classe politique, voire médiatique, il y a caché cette réalité que nous ne voulons voir. Maintenant, il faut la montrer pour qu'il y ait une prise de conscience et pour qu'on règle enfin le problème.
Et puis, il faut dire les faits, et rien que les faits.
Absolument,
c'est la réalité, c'est ça. C'est l'information, c'est l'essence même de notre métier. Naïma Mfadel.
Pour la première fois, le ministre, lors de son discours, a parlé de la place et du rôle des parents. Il a même nommé. Il a nommé la sauvagerie de ces jeunes.
On va en parler justement dans quelques instants.
Et ça, c'était quand même quelque chose d'important. Après, on pourra toujours tout à l'heure discuter effectivement des réponses. Mais on voit bien, vous avez parlé que ces jeunes sauvageons sont issus de familles à problème. Mais normalement, on a tout un maillage dans notre pays pour justement déceler les familles à problème et pouvoir mettre en place tout un accompagnement. Je demandais tout à l'heure à
Pierre-Henri.
À Pierre-Henri, et il me disait, mais en fait, ils sont récidivistes, ils sont déjà connus. Donc, ça te pose toujours le problème de la première sanction qui doit être donnée, que ce soit pour les fauteurs de troubles à l'école, cette sanction qui doit être un électrochoc et qui doit être dissuasive, ou bien lors d'un premier acte de délinquance. Dès le premier acte de délinquance, dès le premier acte de violence, on doit avoir une sanction. Le docteur Maurice Berger, ça fait combien de temps que 2 ans, moi, que je le cite sur vos plateaux, il le dit, il faut un électrochoc. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de récidive, pour aussi que ces gamins-là ne s'installent pas dans la délinquance, mais pour aussi qu'on n'ait pas ces drames. Donc, aujourd'hui...
Le problème, c'est que je crois qu'on a raté quelques épisodes, Naïma, malheureusement.
Pourquoi on serait pas là. De l'État. Aujourd'hui, l'État doit prendre toute sa responsabilité parce qu'il en va de la sécurité aujourd'hui de l'ensemble des Français et aussi des enfants. Et encore une fois, je le dis, c'est aussi pour sauver ces enfants.
Pierre-Henri. Ce qui est vrai, c'est que pour que la peine soit dissuasive, il faut qu'elle soit systématique. Vous ne pouvez pas avoir de peine dissuasive si elle n'est pas systématique. Vous ne pouvez pas vous retenir de commettre une infraction si vous n'avez pas la pleine conscience que vous allez être sanctionné si vous franchissez la ligne rouge.
Et immédiatement.
Et immédiatement. Et c'est d'ailleurs ce que dit très bien Maurice Berger. Ce qui est effrayant, c'est on a ce débat lorsqu'on a eu, vous savez, l'affaire du bijoutier à Nice, lorsqu'il y a ces cas de légitime défense, et vous le disiez très bien tout à l'heure, quand l'État est défaillant dans la sécurité des citoyens, le vrai danger, c'est de tomber dans une société où les gens vont finir par se défendre eux-mêmes,
faire justice eux-mêmes.
Et donc là, ça devient le Far West. Donc pour préserver un équilibre sociétal, il faut évidemment que l'État reprenne sa pleine capacité régalienne et qu'elle conserve ce pourquoi elle a été aussi mandatée, c'est-à-dire préserver la sécurité et rendre justice.
Y compris dans l'enseignement, c'est le rôle de l'État.
Y compris dans l'enseignement.
Et on voit trop souvent dans des petites classes des enfants qui ne sont pas sanctionnés parce que un peu de lâcheté et puis de la crainte des parents.
Oui, la réprimande des parents. Combien de fois on a évoqué ce genre d'affaires où des parents sont venus demander des comptes aux enseignants.
Il faut que l'institution systématiquement.
Après, il y a eu un discours aussi, José, de « faut pas punir, faut pas sanctionner,
absolument.
Faut avoir une autre méthode d'aborder ». Enfin, on a eu quand même tout un discours.
Et en plus, l'enfant qui est justement puni, l'enfant, il n'est pas idiot. S'il a fait une bêtise et que la punition est proportionnée, évidemment, il comprend très bien. Il sait très bien « oui, j'ai mal fait, je suis puni, c'est normal ». Et il l'intègre. Quand on laisse passer, la normalité, c'est « je peux tout faire et je deviens un monstre ». Quand on me laisse tout faire.
Mais on revient toujours au même débat, c'est la question de l'autorité. L'autorité à tous les niveaux, l'autorité à l'école, l'autorité qui est incarnée tout d'abord par les parents. Donc je le dis et en effet je le redis, mais vous avez des parents qui sont dépassés, notamment des mères isolées. On revient au volet sociologique où il y a des mères qui ne savent plus quoi faire. Mais à côté de ça, vous avez quand même des mères maisons, des familles dans certaines communes qui accompagnent ces mères isolées pour faire front et face à un enfant turbulent ou qui commet des délits. Et vous avez des parents qui sont responsables et coupables, j'ai envie de vous dire, aussi. Mmh. Et ça, il faut pas le nier. Et l'autorité n'existe pas. Et l'enfant est roi. Il est roi chez lui. Et il fait n'importe quoi.
On marque une première pause, si vous voulez bien, et vous continuerez après, parce qu'on parlera, vous avez évoqué Gabriel Attal, qui on appelle la responsabilité des parents. On l'écoutera évidemment juste après. Restez avec nous, c'est sur CNews que ça se passe. À tout de suite. Il est 12h30, merci de nous accueillir chez vous. C'est BNews Weekend jusqu'à 14h. Je vous présente mes invités dans quelques instants, mais tout de suite on fait un tour de l'info avec Somaïa Labidi que je resalue.
À la une de l'actualité, riposte israélienne contre Téhéran, de fortes explosions ont été entendues dans le centre du pays et plusieurs drones auraient été abattus par la défense aérienne iranienne. Les sites nucléaires n'ont subi aucun dégât, précise l'AIEA. De son côté, Israël refuse de commenter ces informations pour le moment. Conséquence directe de cette riposte, les cours du pétrole sont déjà repartis à la hausse. Le baril de Brent a pris plus de 3% dans les échanges matinaux sur les marchés asiatiques. Des cours qui risquent très vite de se répercuter sur les prix à la pompe. Et puis un scrutin hors norme, près d'un milliard de citoyens appelés à élire les 543 députés de la Chambre basse du Parlement indien. Scrutin de 6 semaines dont le grand favori est le Premier ministre Narendra Modi, candidat à sa réélection.
Merci Somaïa. On retrouve dans 15 minutes avec moi donc pour commenter l'actualité depuis une demi-heure. Naïm Fadel, Najwa Laïté, Pierre-Henri Bovis, Joseph Touvenel et Harold Iman qui vient de nous rejoindre et que je salue. On parlera de la situation entre Israël et l'Iran dans quelques instants. On a commencé notre émission avec cette marche blanche en hommage à Philippe qui a été organisée ce matin à Grande-Synthe. Je voulais qu'on revienne maintenant sur ce qu'a déclaré notamment, on l'a un peu évoqué tout à l'heure avec Naïm Fadel, ce qu'a déclaré hier Gabriel Attal sur cette ultra-violence et sur le rôle justement qu'on ne cesse de souligner, le rôle des parents. Écoutez ce qu'a dit Gabriel Attal.
Donc sur l'obligation parentale, c'est un, élargir cette incrimination pour pouvoir attraper entre guillemets davantage de parents défaillants, encore une fois, première chose. Deuxième chose, c'est faire évoluer les sanctions, et notamment que le juge puisse prononcer des travaux d'intérêt général, pas uniquement une amende. Mais je veux que quand un jeune fait des dégâts, on aille chercher non pas seulement le parent dans le foyer duquel il réside, mais les deux parents. Parce que quand il y a ce type de violences qui sont commises, on peut aller chercher la responsabilité de la mère, parce que le jeune habite chez sa mère. Je souhaite que désormais, et c'est sur ça qu'on va travailler finement dans les semaines qui viennent, désormais, on puisse aller chercher également le père, même s'il est parti depuis très longtemps.
Gabriel Attal écoute nos plateaux, il vous écoute, Naïm Fadel, parce que ça, c'est, c'est la responsabilité des parents, on l'évoque souvent. Hein. Vous n'êtes pas la seule à l'évoquer, mais vous insistez beaucoup là-dessus, évidemment.
J'insiste beaucoup là-dessus, parce que pour moi, il ne faut pas le prendre comme quelque chose qui va forcément sanctionner les parents, mais c'est vraiment une main tendue aux parents, c'est-à-dire à ceux qui aujourd'hui sont dépassés pour pouvoir mettre en place une aide, et aussi à ceux qui sont défaillants pour leur rappeler tout simplement la place et leur rôle. Alors moi, je vais beaucoup plus loin, parce que moi, je veux faire comme le Danemark, Thierry, c'est-à-dire conditionner les allocations familiales et les aides sociales à la place et le rôle des parents, et notamment à cet éducatif qu'ils doivent absolument mettre en place pour s'occuper de leurs enfants. Donc c'est ça que moi que je pose. Parce qu'aujourd'hui, on vous dit, on va faire un travail d'intérêt général, ok, mais écoutez, on n'arrive même pas à l'exécuter quand il s'agit des mineurs aujourd'hui qui sont sanctionnés par un travail d'intérêt général. On n'y arrive pas, parce qu'en plus, on n'a pas de possibilités d'accueil. Donc à un moment, il faut arrêter, je veux dire, de tergiverser, il faut arrêter les cris d'orfraie, il faut vraiment aujourd'hui renverser la table. Donc on n'y arrivera que si à un moment les parents savent qu'ils ont une épée Damoclès et qu'aujourd'hui, il y a effectivement dans notre pays des droits, mais il y a aussi des devoirs. Et encore une fois, on évitera de tels drames, et notamment aussi que des gamins, je le redis, s'installent dans la délinquance.
Bien, oui. Bon, la table n'est pas encore renversée, comme le dit Naïm Fadel, mais bon, au moins c'est bien de le dire, c'est bien de l'affirmer, de dire que voilà, de renvoyer la responsabilité aux parents aussi, à leur rôle.
En tant qu'avocat, je suis contre l'inflation législative, mais pour autant, sur un point, je serais favorable à renforcer l'arsenal juridique. Mmh. Il y a un article aujourd'hui qui permet de sanctionner, un article pénal qui permet de sanctionner les parents en cas de défaillance, mais c'est un article très rarement appliquée parce qu'on a du mal à démontrer le lien de causalité entre la défaillance dans l'éducation et le délit ou le crime commis par l'enfant. C'est toujours très dur de définir vraiment un lien de causalité évident. Parce qu'évidemment, le juge ne se repose que sur des évidences et des preuves concrètes. Donc c'est compliqué de mettre en place cet article. Il faudrait arriver que le législateur parvienne à renforcer ce dispositif pour qu'effectivement, les parents et les deux parents engagent leur responsabilité en cas de défaillance du mineur, en tout cas en cas de commission d'un crime ou d'un délit par le mineur. Ce qui permettrait aussi, effectivement, de renforcer peut-être ce lien entre les parents et les enfants, les parents, quelquefois, qui sont démissionnaires, ou alors les parents qui sont pas coupable, mais complice, ou du moins qui laisse faire, et qui ne veulent pas intervenir.
Najwa et Joseph, j'aimerais vous faire réagir également sur une autre prise de position très importante, Gabriel Attal, où il évoque carrément l'entrisme islamiste. C'est important d'écouter aussi.
Vous avez, dans beaucoup d'endroits en France, des groupes plus ou moins organisés qui cherchent à faire ce qu'on appelle un entrisme islamiste, et donc oui, les préceptes de la charia, notamment dans nos écoles. Vous avez en face de vous, Madame de Malherbe, le ministre de l'Éducation nationale, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, qui a pris une décision importante, interdire le port de l'abaya et du camis dans nos établissements scolaires, qui étaient utilisés pour détourner la laïcité, avec des groupes organisés qui appelaient des jeunes filles à porter une abaya à défaut de pouvoir porter un voile pour manifester ostensiblement leur religion et couvrir leur corps dans l'école de la République. J'ai pris la décision de l'interdire. Sur ce sujet-là, je peux vous dire que ma détermination, elle est absolue.
Détermination absolue de Gabriel Attal.
Bah, les mots sont dits. Les oui. mots sont Maintenant, dits avec
il faut des actes.
Oui, il faut des actes. Mais le constat est là. C'est-à-dire, en effet, l'école publique, il y a un entrisme idéologique. Et donc, le Premier ministre parle d'entrisme islamisme, j'allais dire. Enfin, qui commence par l'habillement, donc on parlait de l'abaya pour détourner en effet la laïcité, mais aussi la censure de certains cours de biologie, de sport aussi, certaines filles qui refusent d'aller à la piscine. Donc oui, il va falloir s'armer, j'allais dire, plus loin encore idéologiquement. Parce que une idéologie, si elle ne s'interdit pas, et je cite les mots, hein, enfin, l'idéologie, je pense à l'idéologie des frères musulmans, si elle ne s'interdit pas, comme elle a été interdite en Autriche, eh bien, il faut la combattre idéologiquement. Et idéologiquement, il faut qu'on s'arme à l'école pour que, enfin, l'école soit le lieu des savoirs, de la transmission des savoirs, mais également le lieu aussi de la transmission de nos valeurs, de nos valeurs républicaines. Ça passe par l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça passe également par la fierté aussi d'être français. Moi, je suis désolée, j'allais dire, j'ai un certain âge, tout est relatif. Mais quand l'enseignant. Quand l'enseignant en rêve, vous voyez.
Pas à nous. Non, je vois pas à nous.
Bah, merci beaucoup.
Non, je vous en prie.
Non, mais quand l'enseignant rentrait, il y avait une autorité, il y avait un respect des principes, j'aime pas ce mot valise, mais il parle, il y avait un vivre ensemble, vous voyez, enfin, on se fréquentait tous, quelle que soit la religion ou la non-religion. Il y avait un véritable vivre ensemble, ça c'était dans les années 80. Là, c'est plus le cas. Et donc là, la priorité, c'est aussi qu'on s'arme idéologiquement, que l'école soit aussi le lieu de la réussite. Parce que je suis désolée, il y a aussi des écarts au niveau des inégalités. Les inégalités sont de plus en plus prégnantes à l'école, les inégalités scolaires. Et donc ça participe aussi de notre armement.
Joseph, un mot.
J'ai trois choses à dire. D'abord, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Najwa, donc je vais en rajouter juste une petite couche. Gabriel Attal, pour une des premières fois, pour un responsable politique de premier plan, met le mot islamisme. Jusqu'ici, on nous disait c'est le problème de la religion. Je n'ai pas compris que les chrétiens, les juifs, etc., mettaient à feu et à sang et en danger nos écoles. Donc c'est l'islamisme. C'est bien. Maintenant qu'il l'a reconnu, il va falloir aller au bout et combattre réellement les frères musulmans. Deuxième point sur son intervention sur les parents. Oui. Mais là, il y a un rôle social de l'ensemble de la société pour permettre une bonne conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale. Quand je travaille tellement que je ne peux pas élever mes enfants, par exemple, ceux qui ont pris la décision d'ouvrir les supermarchés le dimanche, qui étaient avant fermés, c'est beaucoup de femmes seules qui travaillent comme caissières. Comment font-elles? Qui s'occupe de leurs enfants? Il y a un vrai problème là, le social qu'il faut penser.
Mais José...
Et le dernier point sur Gabriel Attal, moi je suis assez, pas surpris, mais quand la réalité vous rattrape. Gabriel Attal, il fait quand même partie de ceux qui, depuis des mois, si ce n'est des années, nous expliquent qu'un homme, une femme, c'est pareil, une femme, un homme, c'est pareil, tout ça, c'est pareil, c'est la même chose. Et puis là, on nous dit « Ah, mais où sont les pères ?» Je croyais que les pères n'avaient pas plus de rôle que les autres. Ou alors, on en revient à quelque chose qui est le bon sens depuis des décennies et des siècles. Il y a une différence entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas une différence en droit, qui ont le même droit. Mais c'est une différence, d'ailleurs, pour apprendre l'altérité. Il faut apprendre de vivre avec ces différences. Les hommes et les femmes sont différents et apportent autre chose aux enfants. Discours réactionnaire de Gabriel Attal. Mmh. Oh, mon cœur.
Alors, on pourrait débattre évidemment sur le sujet, mais l'actualité est riche en ce vendredi. Alors, Liman est avec nous. On va enchaîner avec l'actualité internationale. L'actualité au Proche-Orient et Israël a frappé l'Iran cette nuit en riposte à l'attaque iranienne du week-end dernier. On s'en doutait, on en a beaucoup parlé. On fait le point avec Maxime Lavandier. Et on sera dans quelques instants évidemment avec Régine Delfour. Et Alors, Liman est avec nous.
Téhéran a fait état de 3 explosions survenues à l'Ob, près d'une base militaire dans la province d'Ispahan, située au centre du pays.
Dans ce cas précis, c'est une base qui a déjà été attaquée en janvier 2023. Donc ce n'est pas la première fois qu'Israël est supposé avoir attaqué l'Iran. Cette base qui est située à Gajavorstan est une base très importante de l'armée de l'air, d'un centre de production de missiles.
Dans la foulée, l'Iran a activé sa défense aérienne dans plusieurs provinces. Selon les autorités iraniennes, des drones ont été abattus, mais aucun dégât n'est à déplorer. Ville stratégique, Ispahan abrite plusieurs sites nucléaires.
Les installations importantes, en particulier les installations nucléaires, sont totalement sûres et aucun accident n'y a été signalé.
Une opération qui intervient en représailles des frappes iraniennes survenues le week-end dernier. Tsahal, qui ne souhaite pour le moment ne donner aucun commentaire, a prévenu Washington de cette attaque. Une riposte que n'approuvent pas les États-Unis. L'ambassade américaine en Israël a ordonné à ses employés et à leurs familles de limiter leurs déplacements à l'intérieur du pays. De son côté, l'Australie exhorte ses ressortissants à quitter Israël et les territoires palestiniens.
Harold Iman. Oh, je vous vois sursauter.
Non, je m'extrais.
Je vous vois sursauter. Israël avait promis de riposter, c'est donc chose faite cette nuit.
Oui, et on avait longtemps imaginé qu'il n'y aurait pas de frappe, que Washington tempérerait ou arrêterait tout cela, mais Netanyahou avait promis de le faire. Alors il l'a fait vraiment à minima. Donc on peut dire, ce n'est pas grand-chose, on peut s'arrêter là, mais on peut aussi retourner la chose. On peut se dire que Israël a réussi à frapper un centre très 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 crucial dans le système de défense iranien. Ce ne sont pas des tirs dans le désert ou dans les sur des rochers, et que cela veut dire qu'à tout moment, Israël pourrait recommencer. Mmh. Donc, c'est un avertissement, pour ainsi dire. Et il ne faut pas oublier qu'Israël a également bombardé plusieurs positions des gardiens de la Révolution et de leurs alliés à l'extérieur de l'Iran aujourd'hui même.
Je vous propose d'écouter Jean-Noël Barrot, le ministre délégué à l'Europe, qui était l'invité de nos confrères de Sud Radio. Écoutez ce qu'il a déclaré suite à cette réplique d'Israël.
L'Iran a franchi un palier supplémentaire dans ses actions de déstabilisation de la région en envoyant en Israël des centaines de drones et une centaine de missiles balistiques, et que nous avons condamné cette attaque avec la plus grande fermeté, tout en appelant à Paris comme à Bruxelles, à la désescalade et à la retenue dans cette région.
Joseph, oui, on peut craindre l'escalade du coup. Hein.
Oui, on peut craindre l'escalade, quoique Roll l'a très bien dit, là c'est plutôt un avertissement. On aura plus de renseignements, mais ça ne semble pas être une frappe massive, prodigieuse, etc. On est peut-être plus dans le symbole. Vous avez touché notre territoire, on est capable de vous toucher, vous aussi, à 1600 km de là, on y va. On touche des sites militaires, puisque ce site, il avait déjà été touché. Et de nouveau, avec, dans la même région, il y a des sites nucléaires qui n'ont a priori pas été touchés. L'angoisse qu'on a tous, c'est le nucléaire. On sait très bien que les Iraniens ont enrichi à 60%, alors que pour le nucléaire civil, le maximum, c'est enrichissement à 20%. Donc ont-ils la bombe, l'ont-ils pas et qu'est-ce que ça peut devenir? Donc est-ce que les choses vont se stabiliser? Cela dit, moi j'ai entendu Ursula von der Leyen dire pour l'Europe, j'appelle les différents partis à s'abstenir de toute nouvelle action. Elle aurait mieux fait de se taire parce que l'Europe c'est un nain, malheureusement. Et ce n'est pas ça qui va faire avancer les choses. Ou en tout cas, allons-y par la diplomatie en sous-main, sera sans doute plus efficace.
En attendant escalade ou pas escalade, écoutez ce que disait le ministre des Affaires étrangères iranien qui a pris la parole hier devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il est sans ambiguïté.
En cas d'utilisation de la force par le régime israélien et de violation de notre souveraineté, la République islamique d'Iran n'hésitera pas une seconde à affirmer ses droits, à répondre de façon décisive et adéquate à faire regretter ses actions au régime.
Quel est votre état d'esprit? Vous êtes inquiète à cette montée de l'escalade ou pas?
Non, je ne pense pas qu'il y aura une montée de l'escalade parce qu'en fait, l'Iran... s'est attaqué d'une manière directe, alors que jusqu'à maintenant, il s'attaquait à Israël via ses proxys que sont le Hezbollah, les rebelles Houthis du Yémen, et puis le Hamas. N'oublions pas que si aussi Israël s'est attaqué à l'annexe qui est en Syrie, l'annexe du consulat iranien, c'est aussi une manière de répondre au pogrom du 7 octobre, parce qu'il faut le rappeler, le Hamas a été quand même... financé, soutenu. Cette attaque a été organisée, planifiée, exécutée avec l'Iran. Donc c'était aussi une manière de tuer, puisqu'il y avait les gardiens de la révolution dans cette annexe. Aujourd'hui, je pense que l'escalade n'y aura pas, parce que vous avez aussi tous les pays arabes aux alentours, certains qui ont signé les accords d'Abraham, qui ne voudront surtout pas qu'il y ait cette escalade, et puis d'autres qui ont des accords, comme l'Égypte. L'Arabie saoudite ne voudra surtout pas, encore une fois, que l'Iran reprenne le leadership sur la région. Donc je pense qu'en accord avec Israël, les choses seront en retenue.
Je vous donne la parole juste après, Najwa, parce qu'il est 12h46. J'ai une minute de retard, pardonnez-moi, ma chère Somaïa, on fait un tour de l'info avec vous. Oui.
7 ans après le drame, la nation ne l'a pas oublié. Hommage de Gérald Darmanin au capitaine Xavier Jugelet, assassiné sur les Champs-Élysées le 20 avril 2017 par un terroriste. La piste du guet-apens privilégiée dans l'agression mortelle de Philippe à Grande-Synthe. Selon nos informations, les deux suspects se sont fait passer pour une jeune femme sur un site de rencontre et tendre un piège à la victime. Une marche blanche en hommage au jeune homme de 22 ans s'est tenue ce matin. Et puis un scrutin hors norme, près d'1 milliard de citoyens appelés à élire les 543 députés de la Chambre basse du Parlement indien. Scrutin de 6 semaines dont le grand favori est le Premier ministre Narendra Modi, candidat à sa réélection.
Merci Somaïa. Et c'est promis, je tâcherai d'être à l'heure pour votre prochain rendez-vous. Oui, surveillez-moi. Merci Somaïa, à tout à l'heure. Réaction Najwa sur cette riposte.
Il n'y aura pas de troisième guerre mondiale. Nombreux ont été les États appelés à la retenue entre l'Iran et Israël pour éviter notamment un embrasement régional et des répercussions au niveau de la paix dans la région, donc pour des questions sécuritaires, mais aussi pour des raisons économiques. Parce qu'on sait très bien que quand il y a ce type de conflit, eh bien, le baril du pétrole augmente. Donc il fallait aussi éviter cela parce que l'Iran, entre guillemets, a une arme, c'est la montée du prix du baril de pétrole. Donc l'Iran est tout à fait capable de suspendre les livraisons de barils pour manifester, entre guillemets, sa désapprobation ou son mécontentement et ses relations conflictuelles avec Israël. Donc on n'en est pas là, loin de là. Mais je rebondis sur ce qu'a dit, sur ce qu'ont dit Joseph et Harold, c'est le fait que tout est symbole. C'est-à-dire que les frappes, et vous le rappeliez très justement, ont été minimales. Donc il s'agit de dire, on n'a pas ciblé vos sites nucléaires, mais la prochaine fois, on les ciblera. Donc, d'ailleurs, la cible n'est pas innocente, c'est Ispahan, où il y a un site nucléaire qui est géolocalisé dans cette ville. Donc, je rappelle, oui, tout est symbole. Donc là, je ne pense pas qu'il y aura une escalade, d'autant que les États-Unis, actuellement, est en période de campagne électorale. Ouais. Et Joe Biden n'a pas intérêt, le président des États-Unis n'a pas intérêt à alimenter un conflit ou à alimenter une escalade dans ce coin du monde.
Et comment, vous parlez de symboles, je me tourne vers vous, Harold. Le 19 avril, c'est pas l'anniversaire de l'ayatollah Khamenei aussi?
Oui.
Aussi?
85 ans.
On peut pas ne pas penser qu'évidemment, oui. Israël y a pensé un peu.
Oui, peut-être qu'ils ont décalé d'un jour ou deux, mais le timing était quand même très très bon de toutes les façons. Et je voudrais juste peut-être rajouter un petit rappel, c'est qu'il ne faut pas oublier que tout ceci prend sa source dans la guerre Hamas-Israël et que l'Iran et les États-Unis aussi ont leur mot à dire dans cette affaire et qu'à Washington, on ne voudrait pas que les Israéliens aillent à Rafah, investissent la ville de Rafah. Donc peut-être ils ont donné du lest sur l'Iran pour qu'Israël se retienne sur Rafah. Et c'est maintenant, aujourd'hui, la grande question, Rafah, oui ou non?
Réaction, Naïma?
Non, mais écoutez, je rejoins, mais c'est vrai que moi, j'avais été en fait étonnée qu'Israël ne réagisse pas suite au 7 octobre. Mmh. Parce qu'on le sait, on l'a su par la suite, que l'Iran avait organisé, planifié et fait et exécuté en fait le 7 octobre, que c'était l'Iran qui était derrière le Hamas.
Ils ont participé. Donc,
oui, voilà, ils ont participé, même financé les drones d'ailleurs, etc. Mais c'est ça qui m'a étonnée, c'est que en fait, Israël a attendu et il a, bon, ça se dit pas ouvertement, mais il a attaqué donc l'attaque qu'il y a eu en Syrie sur l'annexe du consulat. C'était une manière de se venger, alors je parle sous votre contrôle, un peu de ce 7 octobre, puisqu'on a attaqué qui? Il y avait qui dans cette annexe du consulat? Il y avait certains gardiens de la Révolution.
De haut rang. C'est ça.
Voilà. Merci.
Naïma a raison, mais je pense qu'Israël, s'ils ont mis du temps à répondre, c'est qu'il y avait une sidération. Jamais ils n'auraient imaginé que le 7 octobre puisse se passer, qu'Israël, les frontières volent en éclats. Et
personne n'a imaginé, c'est vrai.
Rappelons que la fête, ceux qui ont été particulièrement touchés, c'était des pacifiques.
De gauche, des enfants.
Qui ont été assassinés dans les conditions les plus abominables. Sidération pour tous les Israéliens, sidération pour tous les Juifs, sidération pour toutes les personnes sensées sur cette planète.
Allez les amis, 12h51, c'est l'heure de la mi-temps BNews Weekend. On se retrouve dans quelques instants. On va se parler de Jean-Luc Mélenchon, qui décidément n'aime pas beaucoup CNews, puisque... il a traité notre chaîne de chaîne infâme. Je vous ferai, on écoutera.
Il vient ici le dire.
Il peut venir, on l'invite quand il veut. Je lui lance l'invitation d'ailleurs, droit dans les yeux, Jean-Luc Mélenchon, si vous voulez venir sur notre plateau. Vous êtes le bienvenu. On se retrouve dans quelques instants, je vous ferai agir. On écoutera Jean-Luc Mélenchon, évidemment. Allez, à tout de suite. Il est 13h, rebonjour, merci de nous accueillir chez vous, bon appétit si vous êtes à table, c'est BNews Weekend jusqu'à 14h. Je vous présente l'équipe de grands témoins qui m'entoure depuis une heure déjà, mais tout de suite le sommaire de notre deuxième partie. On va se parler encore de Jean-Luc Mélenchon. Au cours d'un rassemblement à Lille, le leader de la France insoumise a encore attaqué notre chaîne. Selon lui, CNews serait une chaîne infâme. Évidemment, on en débat et on écoutera Jean-Luc Mélenchon que l'on invite quand il veut. Dans BNews Weekend, on parlera des européennes aussi, avec un sondage OpinionWay pour CNews. Le RN est toujours en tête avec 29% des voix, suivi de la liste Renaissance. Hier, l'ensemble des têtes de liste étaient auditionnées par le MEDEF. On verra tout cela avec Mickaël Dos Santos. Voilà, vous savez tout, ou presque. Le reste, c'est avec Somaïa Labidi que je resalue en ce vendredi. Rebonjour Somaïa.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. C'était l'un de vos thèmes de débat, Thierry, la piste du guet-apens privilégié dans l'agression mortelle de Philippe à Grande-Synthe. Selon nos informations, les deux suspects se sont fait passer pour une jeune femme sur un site de rencontre et tendre un piège à la victime. Beaucoup d'émotions lors de la marche blanche en hommage au jeune homme de 22 ans, comme en témoigne un de ses proches amis. Écoutez.
Marcher pour faire entendre la vérité et pour que Philippe ne soit jamais oublié. Marcher comme on prie, sans un bruit, avec recueillement et sincérité. Marcher, marcher longtemps, aussi longtemps que dure la mémoire. Marcher pour maintenir vivants les souvenirs de notre bien-aimé. Marcher pour que le long silence du deuil trouve un écho en ce monde et que notre voix soit entendue. Et si sur le chemin, un mot vous vient, si vous devez formuler un hommage, si vous devez vous indigner, si vous devez dire un mot de soutien ou d'amour, si nous devons porter haut une parole pour que la vie jamais ne s'arrête, nous dirons haut et fort que justice soit faite. Pour Philippe.
Dans le reste de l'actualité, on l'a appris ce matin, une adolescente de 14 ans victime d'un arrêt cardiaque lors du confinement de son collège après l'attaque au couteau survenue hier dans le Bas-Rhin est décédée. Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation, a tenu à lui rendre hommage.
Nous avons été choqués lorsque nous avons appris hier le décès de cette jeune collégienne dans le Bas-Rhin qui est décédée à la suite de la mise en sécurité de son établissement parce qu'il y avait eu une agression dans l'école élémentaire voisine. C'est un drame pour nous tous et je voudrais adresser vraiment mon soutien le plus sincère à sa famille qui évidemment est effondrée à la suite de ce drame.
Et puis à la une de l'actualité internationale, la riposte israélienne contre Téhéran. De fortes explosions ont été entendues dans le centre du pays. Plusieurs drones auraient été abattus par la défense aérienne iranienne. Des informations qu'Israël refuse de commenter pour le moment. Alors qu'Ursula von der Leyen appelle à la stabilité.
Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que toutes les parties s'abstiennent de toute escalade dans cette région. Nous avons vu l'attaque massive de drones et de missiles, environ 300, par l'Iran contre Israël. Il est absolument nécessaire que la région reste stable et que toutes les parties s'abstiennent de toute nouvelle action.
Voilà pour l'essentiel de l'actualité à 13h. Tout de suite, Thierry Cabanne et ses invités pour la deuxième partie de Midi News.
Merci, Somaya. Et à tout à l'heure, dans 15 minutes, évidemment. Je vous présente mes grands témoins du jour, Naïma M. Fadel, Najwa El Haïté, Pierre-Henri Bovis et Joseph Touvenel. Les amis, chose promise, chose due, on va vous parler, on va se reparler de Jean-Luc Mélenchon maintenant. On le savait déjà, il n'est pas le plus grand fan, c'est le moins qu'on puisse dire, de notre chaîne. Hier à Lille, il s'en est pris encore à nous. Écoutez-le, vous allez vite comprendre ses propos et évidemment, je vais vous faire réagir ensuite.
Et les aboyeurs qui les relaient pendant des heures et des heures sur cette chaîne infâme qui s'appelle CNews. À qui l'organisme qui attribue des fréquences, j'espère, aura le sursaut de dignité de la refuser la prochaine fois puisqu'elle est en cours de renouvellement.
C'est quand même une drôle de conception de notre métier. C'est un irrespect profond pour tous les gens qui assurent le bon fonctionnement de cette chaîne, qui exercent leur métier le plus honnêtement possible. C'est un peu étonnant d'utiliser ce genre de termes, mais ça ne surprendra personne. D'ailleurs, s'il souhaite s'exprimer sur notre antenne, on ne cesse de le dire, Jean-Luc Mélenchon, et de l'inviter. On l'invite. Je dis ça pour les gens de l'ARCOM. Qui nous regardent, on les invite, les gens de LFI. Il n'y a aucun problème. Et notamment Jean-Luc Mélenchon. Et certains membres de LFI viennent sur nos plateaux, d'ailleurs.
Manon
Aubry, notamment.
Sur ce plateau avec un membre de LFI. Celui qui peut le mieux répondre. Je crois.
Mais s'il y a des choses à dire, il faut qu'ils viennent.
C'est Marcel Proust. Marcel Proust qui écrivait « Il n'y a qu'une chose vraiment infâme, c'est le mensonge ». Et bien voilà, « Il n'y a qu'une chose vraiment infâme, c'est le mensonge de Mélenchon ».
C'est tellement facile de prendre la partie, la chaîne, de... Enfin,
D'appeler à la censure, d'appeler à l'interdiction. Il n'appelle pas au débat. Il n'appelle pas au débat des idées. Il appelle à la censure, à l'interdiction. Il est exactement dans la ligne de tous ces partis extrémistes, de dictature, qui veulent le pouvoir pour eux-mêmes, qui ne reconnaissent pas aux autres de penser différemment, c'est quelqu'un de très, très inquiétant dans les mots. Et j'espère que jamais, jamais il sera au pouvoir, parce qu'on sait comment ça se termine dans ces cas-là. Les gens comme nous, on est vite enfermés.
Pierre-Henri Bovis.
Je trouve que, d'ailleurs, plus le temps passe, et plus il a des allures de Robespierre, Mélenchon, avec les cheveux grisonnants. Je pense que, d'ailleurs, Mélenchon...
Il n'y a rien contre les cheveux grisonnants.
Non, mais... non,
parce qu'on est deux concernés sur ce plateau.
Je vous rassure, c'est un ensemble. Bon, c'est une gouaille, c'est se comporter comme un gourou avec à chaque incantation de la foule qui... qui se applaudit, etc. Vous voyez, donc le gourou Mélenchon, ça y est,
vous êtes parti.
C'est bon, il est parti. Le gourou, à mon avis, devrait aussi bientôt nous ressortir la loi des suspects, vous savez, pour essayer de capturer ceux qui sont des ennemis de la liberté. Pour établir justement la liberté, pour établir les libertés, il faut censurer. Pour établir la liberté, il faut capturer, il faut emprisonner, il faut embastiller. Et lorsque vous avez, ça y est, attrapé vos ennemis, que vous les avez embastillés, peut-être que vous pourrez avoir la liberté. Or, la liberté avec vos propres lois, évidemment, la liberté avec votre propre carcan, votre propre idéologie. Mais si vous ne pensez pas comme nous, alors vous êtes un ennemi de la liberté et alors vous devez finir au cachot. C'est exactement l'idéologie de Mélenchon et l'idéologie de Robespierre. Mélenchon qui est censuré quand même à Lille ne s'offusque pas un seul instant que Éric Zemmour soit censuré en Belgique. Jean-Luc Mélenchon, qui veut absolument la liberté d'expression, veut pour autant la fermeture de la chaîne CNews. Donc c'est exactement ce que je dis. La liberté, la mienne, celle que j'entends et que je définis, et vous, ennemi de la liberté, ennemi de ma liberté, je vous embastille.
Mais ce qui est terrible, excusez-moi, 30 secondes, je voyais Jean-Luc Mélenchon interrogé chez les confrères d'une autre chaîne. En fait, quand les questions des journalistes le dérangent, il renvoie dans les 18 mètres les journalistes. Et le problème de fond, c'est qu'il n'aime pas les questions qu'on lui pose. Mais on fait juste notre métier. À ce moment-là, attendez, monsieur Mélenchon, dites-nous quelles sont les questions qu'on doit vous poser. Et il s'attaque à CNews, mais ce matin, le confrère qu'il interrogeait s'est pris
il est pas pour
une volée de bois vert parce que la question ne lui convenait pas. C'est ça qui est terrible. Enfin, je veux dire, on est libre de lui poser les questions que l'on souhaite poser.
Il faut rappeler...
Juste que libre, sais que c'est notre métier.
Je sais que ça les gêne, mais il faut le rappeler. Et ça le gêne terriblement. Mais Louis Boyard, quand il était chroniqueur salarié... Salarié, j'entends.
Ah oui, quand il était chez notre ami Trianon, ça ne posait pas de problème.
Il percevait une rémunération du groupe Bolloré. L'argent n'a pas d'odeur. Ça ne l'a pas gêné, l'ami Boyard. Et ça ne l'a pas gêné non plus, l'ami Mélenchon. Donc c'est toujours, encore une fois, lorsque ça sert nos propres intérêts, il n'y a pas de problème. Maintenant, dès lors que ça ne sert plus nos intérêts, vous êtes des ennemis de la liberté et vous n'avez plus le droit d'exister.
Non, mais désolé, un journaliste s'est fait pour poser des questions aussi. Et pas toujours des questions qui vont dans le sens. Voilà. Et ça, c'est bien à bas. C'est notre règle. Et c'est notre déontologie.
Quel est le nom qui est venu de la période de gouvernance de Robespierre? C'est le nom de terreur.
La terreur.
Le mot de terreur est venu, on l'a qualifié après la chute de Robespierre, la période de terreur. Et dans terreur, c'est terrorisme aussi. Et bien là, il y a du terrorisme intellectuel. Et pour LFI, à mon sens, il y a aussi le soutien intellectuel d'un terrorisme qui s'appelle le Hamas.
Najwa.
Non mais Jean-Luc Mélenchon, il se dit victime de censure.
Il a un problème avec la presse en général. Il n'y a pas que nous.
Il parle de liberté d'expression. Bien sûr que la liberté d'expression est un droit fondamental. Elle est garante de la bonne santé de notre démocratie. Mais cette liberté, faut le rappeler, elle souffre aussi, d'exceptions. Quand elle devient une atteinte à l'ordre public, à la tranquillité publique et à nos principes, je suis désolée, l'antisémitisme, l'apologie du terrorisme ne sont pas des idées, ce sont des délits. Donc il faut rappeler à Jean-Luc Mélenchon cela. Et j'aimerais également manifester, parce que je l'ai su hier, mon soutien à un de vos journalistes.
Mais on va en parler justement.
Ah bah très bien.
On va en parler. Vous voulez réagir ou pas, Naïma, sur Jean-Luc Mélenchon?
Écoutez, je crois que tout a été dit. Il prône le chaos, la révolution, effectivement, et j'ai bien apprécié l'explication aussi de mon voisin par rapport, effectivement, une liberté, une vision de la liberté qui est la sienne et surtout pas pour les autres. Et donc, avec lui, je pense qu'on irait au goulag.
Voilà, il faudrait qu'il se laisse un peu pousser les cheveux, un peu plus, on sera dans le personnage.
Allez, on enchaîne et je rappelle encore une fois notre invitation. Si Jean-Luc Mélenchon souhaite participer à une de nos émissions sur notre chaîne ou Midi News le week-end, il est le bienvenu. Peut-être que le week-end sera peut-être plus détendu, je ne sais pas.
D'autant plus que Manuel Bompard vient chez nous et que Manon...
Évidemment, et Manon Bouy aussi.
Là, je crois qu'il y a une quinzaine de jours.
Allez, on va parler de Rima Hassan. C'est d'elle dont vous vouliez parler, ma chère Najwa. Puisque Rima Hassan, candidate LFI, a décidé de porter plainte contre notre confrère et ami Yohann Usaï, car Yohann avait déclaré au cours d'une émission qu'elle avait la haine des Juifs chevillée au corps. Elle a publié un tweet hier, je vais vous le lire, vous allez le découvrir à l'écran. Bonjour, alors voilà, ça s'adresse directement à notre ami Yohann. Bonjour Yohann Usaï, suite à vos déclarations que vous avez tenues sur CNews, Rima Hassan a la haine des Juifs, chevillée au corps depuis sa naissance. Je vous annonce déposer plainte contre vous. À très bientôt, je vous souhaite d'être prêt.
Oui, la menace.
Mais il sera prêt.
C'est une forme de menace, non, oui, à l'égard de Johan.
Tout à fait, mais Johan Usaï a dit parfaitement les choses. Enfin, je veux dire, il a fait son travail de journaliste. Il a été factuel. Il a repris des prises de position. D'ailleurs, elle circule hein, sur les réseaux sociaux. Oui. J'ai pu les voir aussi hier. Donc, le nombre de preuves existe. Enfin, je pense que Johan Usaï le disait. Il disait, moi, j'ai des preuves.
Ben, voilà, écoutez,
la justice.
Ça vous dérange pas qu'on écoute Johan?
Ah oui.
Et puis, comme ça vous permettra de détailler un peu votre analyse et votre. On écoute Johan hein, qui s'est défendu hier chez notre ami Pascal Praud.
Je suis très surpris du dépôt de cette plainte parce que, voyez-vous, je ne prends aucun plaisir à affirmer que Rima Hassan a la haine des Juifs chevillée au corps. Si je me suis permis de le dire, c'est parce que, hélas, je pense bien pouvoir en apporter la preuve. Je pense bien en avoir la preuve. Mes propos, ils sont étayés. C'est d'ailleurs mon rôle de journaliste, de parler en connaissance de cause et de s'appuyer sur des faits. Alors, sur quel fait précisément est-ce que je me suis basé pour affirmer que Rima Hassan avait la haine des Juifs chevillée au corps? Il y a de multiples exemples. J'en ai pris quelques-uns. Quand on lui pose au mois de novembre dernier la question « L'action du Hamas est-elle légitime ?» Elle répond oui. Oui, c'est vrai, l'action du Hamas est légitime. Elle légitime donc le pogrom du 7 octobre dernier. Elle trouve une justification à ce pogrom. Si là, on n'est pas dans l'antisémitisme, alors où est-on? Je pose la question. Je lui pose la question. Quand on lui demande si Israël a le droit de se défendre, elle répond non. Non, c'est faux. Non, Israël n'a pas le droit de se défendre. Est-ce qu'on n'est pas là dans une forme aussi d'antisémitisme? Quand elle utilise l'expression, ou plutôt le slogan « From the river to the sea », qui signifie la Palestine de la rivière à la mer, ce qui veut dire en fait « raser l'État d'Israël », ce qui veut dire « détruire l'État hébreu » et par extension « le peuple juif ». Est-ce qu'on n'est pas là dans l'antisémitisme? Je pose à nouveau la question. Plus récemment, on a vu l'exemple d'affiches notamment pour la conférence qui devait se tenir à Lille. Sur cette affiche, il y a la photo, le nom de Rima Hassan. Et à côté de cette photo, sur cette affiche, le slogan, le logo de Free Palestine, où là aussi, Israël est rayé de la carte. On est à nouveau dans la négation de l'État d'Israël, dans la négation du peuple juif. On n'est pas là dans l'antisémitisme. J'aimerais pouvoir dire le contraire. J'aimerais pouvoir affirmer que Rima Hassan n'est pas antisémite. Je pense pouvoir prouver le contraire. Rima Hassan m'a interpellé. Elle me dit « Je vous souhaite d'être prêt, je ne vous épargnerai pas ». Comme souvent dans l'extrême gauche, on est dans la menace. Ça ne m'intimide pas beaucoup. Je suis journaliste, je ne suis pas un opposant politique, donc j'irai répondre devant le tribunal si la procédure va jusque-là, avec des arguments journalistiques pour démontrer qu'effectivement, selon moi, Rima Hassan a la haine des Juifs.
Pardonnez-moi de vous avoir interrompu, Najwa, mais c'est important d'écouter Johan, évidemment, puisqu'il est attaqué par Rima Hassan.
Oui, tout a été dit. D'ailleurs, excellente plaidoirie, j'allais dire, hein, parce que la justice, elle se basera sur des preuves. Hier, je regardais sur les réseaux sociaux, bien sur les réseaux sociaux, il n'en manque pas des preuves, puisque vous avez des vidéos où elle le dit. Elle dit oui, l'action du Hamas est parfaitement justifiée. Je rappelle quand même que le Hamas est un mouvement terroriste. Donc elle justifie le pogrom du 7 octobre 2023. Cet acte de barbarie, d'inhumanité, jamais égalé au cours de la Seconde Guerre mondiale. Mais je ne suis pas du tout inquiète pour Johan Usaï. Bien au contraire, il pourra justifier qu'il a fait son travail de journaliste de manière pragmatique et objective.
Deux mots rapides, Pierre. Oui. Deux mots, parce que
on souhaite un bon courage à Johan Usaï pour sa défense.
Évidemment.
Et peut-être un domaine dans lequel il faut revenir sur la diffamation. Vous savez, c'est le seul domaine, c'est une exception au droit français dans lequel le prévenu doit apporter la preuve de sa bonne foi. La mauvaise foi n'est jamais présumée, sauf en matière de diffamation. Et donc, la plaidoirie, en quelque sorte, que Johan Usaï a faite, c'est une plaidoirie dans laquelle il apporte des éléments de preuve pour démontrer que ses propos sont fondés. Et que justement, il avait raison de les tenir, notamment en qualité de journaliste, avec le travail journalistique qu'il a fait. En tout cas, on lui souhaite bon courage dans cette procédure, si évidemment cette procédure venait à aboutir. Vous savez, en matière de diffamation, notamment à Paris, sont des procédures très longues. Et il faut être, lorsqu'on est auteur de la plainte, il faut être très rigoureux. Bon courage.
Et notre total soutien à Johan Usaï.
Évidemment. Il est 13h16. Je suis vraiment désolé.
La question
Thierry.
Désolé, vraiment.
Vous allez dépasser votre quota.
Ouais, j'ai dépassé le quota. Mille excuses. On fait un tour de l'info.
Vous êtes pas comme ça en temps normal, Thierry. Oui. Je ne sais pas ce qui se passe.
Je ne sais pas. Allez, surveillons.
À la une de l'actualité, la piste du guet-apens privilégié dans l'agression mortelle de Philippe à Grande-Synthe. Selon nos informations, les deux suspects se sont fait passer pour une jeune femme sur un site de rencontre et tendre un piège à la victime. Une marche blanche en hommage au jeune homme s'est tenue ce matin et a réuni plus de 1500 personnes. On en sait un peu plus sur le profil de l'agresseur de deux jeunes filles hier dans le Bas-Rhin. L'homme qui a donné une fausse identité aux policiers a fait 3 séjours en psychiatrie et a été suivi jusqu'à une rupture de son traitement en novembre 2023. Et puis Washington a mis son veto à l'adhésion pleine et entière des Palestiniens aux Nations Unies. Décision aussitôt fustigée par l'autorité palestinienne, y voyant, je cite, « une agression flagrante qui pousse le Moyen-Orient au bord du gouffre ».
On ne voulait pas ?
Pas du tout, Thierry.
Merci beaucoup, Somaya. Merci mille fois. Allez, la dernière ligne droite, évidemment, pour Midi News. On va parler des élections européennes avec ce sondage OpinionWay pour CNews. On va le découvrir ensemble et puis on va le commenter. Évidemment, je vous attends sur les chiffres. Européenne 2024, intention de vote, boum boum. Et voici les résultats. Rassemblement national, 29%, majorité présidentielle, 19%, Parti socialiste, 12%, la France insoumise dont nous parlions il y a quelques instants, 8%, les Républicains, 7%, Europe Écologie Les Verts, 6%, Reconquête, 6%, Parti communiste français, 4%. Commentaires, réactions, décryptage, analyse, je vous écoute. Pierre-Henri.
Ce qui est incroyable dans ce sondage, c'est qu'il y a encore quelques années, je dis quelques années, peut-être il y a 10 ans, le Rassemblement National et les Républicains avaient des scores inversés. Mmh. Ce qui est dingue, c'est qu'il y a eu cette inversion en termes de score, en termes d'intention de vote, qui peut s'expliquer de différentes manières, mais en tout cas, on voit que la droite a littéralement explosé.
C'est moins qu'on puisse dire.
La droite traditionnelle. Voilà.
7% des Républicains. Hein.
La droite issue de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy. Mmh. Cette droite-là a littéralement explosé au profit d'un Rassemblement national qui s'est consolidé, j'entends en interne aussi, qui s'est restructuré, qui a aussi
évolué.
Oui,
évolué.
Alors, je veux dire, son idéologie, j'en sais, mais en tout cas, son discours politique.
Oui.
Voilà. En tout cas, arrondi son discours politique. Pour essayer, en quelque sorte, de faire de tirer un parti style un peu ancien RPR, UMP-RPR. Et si, effectivement, le Rassemblement national continue en cette voie-là, c'est, à mon avis, l'effacement total des Républicains, en tout cas, de ce parti à venir.
7%, Naïma.
Oui, je reçois complètement ce qui vient d'être dit, et je rajouterais qu'effectivement, le Rassemblement national a su aussi se renouveler, s'affirmer, se réorganiser, et puis s'ouvrir. Les Républicains, on peut le regretter, mais ils sont beaucoup aussi dans l'entre-soi. On attend un petit peu la liste qu'on va avoir, mais on voit bien qu'ils ont du mal à se renouveler.
Il serait peut-être temps quand même d'avoir une liste. Enfin, je dis ça. Mais...
Voilà. En revanche, on voit que le Parti socialiste est en train de renaître.
Oui, oui, 12%. Hein. Ça se rapproche de la majorité présidentielle. Hein.
Voilà, que leur stratégie fonctionne. Donc, c'est vraiment intéressant. Alors, effectivement, là, la droite républicaine, celle qu'on a connue, bon, elle n'existe pratiquement plus, d'autant plus qu'elle a perdu un point. Parce qu'au dernier sondage, c'était 8. Aujourd'hui, c'est 7. Donc voilà, ça va être très intéressant, en fait, pour les prochaines élections présidentielles, les européennes.
Joseph et Najwa.
Il y a deux choses qu'il va regarder. Alors, il y en a une qui va certainement continuer à bouger, c'est le taux de participation. Ça sera intéressant de voir si le taux de participation est important ou pas. Jusqu'ici, aux élections européennes, les dernières, il y avait eu un taux de participation relativement important. Et puis ensuite, selon le nombre d'élus qu'auront les uns les autres, ça va être l'équilibre au sein du Parlement européen. Et là, les choses, aujourd'hui, en gros, LR, c'est le PPE. Le PPE fonctionne, qui est le plus gros, mais pas majoritaire, fonctionne avec les sociaux-démocrates, avec les socialistes, voire un peu avec les Verts, sous l'influence allemande. Est-ce que demain, le nouveau Parlement européen va pencher plus vers la droite, ce qui changera quand même beaucoup de choses par rapport aux réglementations et aux options de l'Europe. Ça va être intéressant à observer parce que même si Bellamy fait peu, mais Bellamy plus le RN, plus ceci, plus cela, il peut y avoir, plus les autres pays, il peut vraiment y avoir un changement de poids au sein
ils vont accepter de travailler ensemble, c'est important.
Au sein des groupes, parce qu'ils vont être, dans des groupes européens qui sont beaucoup plus gros. Aujourd'hui, le groupe PPE, par exemple, vous trouvez au sein du groupe des gens qui sont carrés, qui pourraient être avec le RN et d'autres qui pourraient être avec le PS. Donc on voit que les groupes européens, c'est plus compliqué que ce qu'on connaît chez nous.
Najwa, quel est votre regard ?
Alors, mon regard est le suivant.
Deux points, ouvrez les guillemets.
Voilà, deux points, PowerPoint.
Voilà.
Non, les Européennes ont toujours été un rendez-vous. Récemment, constituent des élections qui sont un bon rendez-vous électoral pour le RN. La dernière fois, aux dernières élections européennes, d'après mes souvenirs, le RN était en quasi-égalité avec Renaissance. Oui. À l'époque, c'était LREM. Mm-hmm. C'était pas encore Renaissance. Donc, quasi-égalité parfaite. Mais ce sondage est très, très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on remarque que le RN élargit sa base électorale. Vous constatez que les CSP+, votent majoritairement RN. Avant Renaissance. Ça, c'est pas négligeable.
Donc, il y a eu un basculement.
Un vrai basculement à ce niveau-là. Du côté des inactifs, égalité parfaite entre Renaissance et le RN. Chez les jeunes, oui. Souvenez-vous, il y a eu une communication quand même de la présidence très orientée auprès des jeunes, sur TikTok, Instagram, peut-être Snapchat. En tous les cas, il y a eu vraiment une volonté de s'adresser aux jeunes. Et pourtant, les jeunes votent plus Rassemblement National. Alors, où Renaissance résiste, c'est chez les personnes âgées votent majoritairement Renaissance. Et j'ai envie de vous dire, tant mieux pour la majorité, parce que c'est eux qui vont voter. Parce qu'on sait très bien que les élections européennes, ce sont des élections où il y a un taux d'abstention extrêmement important. Donc, qui va voter ? Ce sont les personnes âgées.
Eh bien, on suivra ça avec attention. Et il y aura d'autres.
L'abstention, la dernière fois, c'était 50%, hein, pas plus.
Ouais, c'est vrai.
C'était beaucoup moins d'abstention qu'aux élections politiques précédentes en France. Hein.
Mais ça reste important.
Les amis, il ne me reste plus qu'à vous remercier, évidemment. Merci mille fois pour
votre.
Et c'est toujours un plaisir de vous avoir. Merci. Moi, je vous retrouve dans quelques instants, puisque on va vous rediffuser Aurore Berger, qui était la grande invitée de Romain Desarbres ce matin. À tout de suite. Évidemment, on marque une pause pub et à tout de suite. Il est 13h30, merci de nous accueillir chez vous. Le temps de faire le tour de l'info avec Somaïa Labidi, que je resalue.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. À la une de l'actualité, c'est évidemment la riposte israélienne contre Téhéran. De fortes explosions ont été entendues dans le centre du pays. Plusieurs drones auraient été abattus par la défense aérienne iranienne. Des informations qu'Israël refuse de commenter pour le moment. Plus de réactions après cette riposte, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, appelle à la désescalade et à maintenir la stabilité dans la région. Et puis, conséquence directe de cette riposte, les cours du pétrole sont déjà repartis à la hausse. Le baril de Brent a pris plus de 3% dans les échanges matinaux sur les marchés asiatiques, des cours qui risquent très vite de se répercuter sur les prix à la pompe.
Merci beaucoup, ma chère Somaïa. Et on va retrouver tout de suite Aurore Berger, qui était l'invitée ce matin de la grande interview de Romain Desarbres. Aurore Berger, la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Bonjour Aurore Berger.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes donc ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et en charge également de la lutte contre les discriminations. On va en parler. Gabriel Attal a eu des mots inquiétants hier soir, évoquant un entrisme islamiste à l'école avec des hommes et des femmes qui prônent les préceptes de la charia. On parle bien de l'école française. Ça fait peur. La charia en France. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ?
Je ne pense pas que ce soit des mots inquiétants. Je pense qu'il faut être lucide sur les tentatives qui existent de déstabilisation de nos valeurs républicaines, de notre corpus républicain, avec notamment les principes de laïcité. Vous savez, j'étais d'abord députée en 2017 avant d'entrer au gouvernement. Je peux vous dire que quand on portait ce message très clair sur les enjeux de laïcité, très vite, on nous caricaturait en disant qu'on parlait d'une laïcité intransigeante, etc. Non. On parlait juste de l'application strict et nécessaire de principes républicains et donc partout dans nos services publics. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire à l'école, ça veut dire à l'université, ça veut dire dans le monde du sport, parce que partout, on voit qu'il y a des tentatives, encore une fois, de déstabilisation, de renversement de nos valeurs. Et donc, il faut évidemment rien laisser passer.
On arrive à les bloquer. Et elles ont plutôt tendance à se développer.
On arrive à les bloquer, mais on voit à quel point c'est difficile. Prenez l'exemple du monde du sport, avec cette inversion des valeurs. On nous dit, c'est vous qui interdisez à des jeunes femmes de faire du sport parce que vous leur interdisez de pratiquer un sport si elles sont voilées. Non, c'est l'inverse. Dans la République française, tout le monde peut pratiquer un sport. Tout le monde peut s'émanciper par le sport. Tout le monde a accès à cette liberté-là. Ce qu'on ne veut pas, c'est que la religion prenne le pas sur le monde du sport. C'est pareil à l'école. Évidemment, quand on a dit « on interdit l'abaya » parce que c'était un moyen détourné de contourner la loi de la République et l'interdiction des ports de signes religieux.
On en est à interdire l'abaya, à dire que certains prônent la charia à l'école.
Et malheureusement, vous voyez bien que cette situation, elle n'est pas spécifique à la France. Par contre, là où c'est spécifique à la France, c'est que nous, on tient, on résiste et on assume un principe de laïcité qu'on est parfois un peu seul, d'ailleurs, à assumer, à revendiquer, comme étant non pas un principe d'oppression, ça c'est ce que certains aimeraient faire croire, mais un principe d'émancipation, un principe de liberté qui fait qu'on ne voit en face de nous que des citoyens français, avant de voir des particularités, avant de voir des opinions. Donc c'est ce principe de liberté qu'on doit évidemment défendre. Et oui, c'est difficile. Et oui, on ne peut pas laisser en première ligne et seul nos enseignants, nos directeurs d'établissement, comme malheureusement ça s'est produit récemment avec un directeur d'établissement qui a été mis en cause de manière injuste et mensongère. Et on a été là et en soutien.
Mais il y a tout, la preuve, c'est ce que vous êtes en train de nous expliquer. Il y a eu plusieurs ministres qui disent fini le pas de vague, vous allez voir ce que vous allez voir. Maurice Ravel, le lycée Maurice Ravel, le proviseur a été laissé seul. Et c'est lui qui est parti.
Il n'a pas été laissé seul.
Mais c'est lui qui est parti.
Il n'a pas été laissé seul.
C'est lui qui est parti.
Oui, mais attendez, c'est très important quand même de rappeler les faits. Les faits, c'est quoi ? C'est un professeur qui fait respecter la loi de la République. C'est une jeune fille qui s'y oppose et qui ment, qui dit qu'elle a été agressée, qu'elle a été violentée par un enseignant, donc clairement qui lui met une cible dans le dos. Et on a des enseignants qui en ont déjà payé le prix le plus absolu, puisqu'ils ont été assassinés du fait de ce type de mensonge. Et c'est la République qui immédiatement dit quoi ? Dit qu'elle va porter plainte contre cette jeune fille.
Et c'est juste avant le rectorat qui avait dit que le proviseur avait quitté l'établissement parce qu'il voulait prendre sa retraite.
La parole qui compte, c'est la parole politique.
C'est une erreur de la part du rectorat.
Oui. Mais la parole qui compte, c'est laquelle ? Moi, je suis une femme politique. La parole qui compte, c'est la parole politique dans une République. Et donc la parole politique, c'est celle que nous avons portée et qui a été de dire on ne laisse pas passer, on ne fait pas le pas de vague, on ne dit pas juste à cet enseignant merci pour votre carrière, on dit surtout on porte plainte contre cette jeune fille qui a menti, qui lui a mis une cible dans le dos et on ne laisse rien passer en la matière. Et donc on envoie un message très clair aussi au corps enseignant, au recteur aussi, qui est de dire, encore une fois, on doit être d'abord en soutien de nos enseignants.
Aurore Berger, qui sont les gens qui font de l'entrisme islamiste à l'école et qui prônent les préceptes de la charia en France ?
Ils sont multiples. On le voit aussi à l'université. C'est-à-dire que c'est un entrisme patient. Ça ne se produit pas comme ça en quelques mois, en quelques semaines.
Qu'est-ce qu'on sait d'eux ?
Ça veut dire que c'est une volonté de structurer, d'organiser, de manière, encore une fois, à chercher à faire sécession avec les principes qui sont les principes républicains.
Si on veut lutter contre eux, il va falloir les identifier.
Les caractériser, les identifier. Ça a été caractérisé clairement par le Premier ministre quand il parle justement d'entrisme islamiste. Et l'entrisme islamiste, ça ne veut pas dire que dans chacun de nos établissements, dans chacune de nos écoles, on a la charia qui s'applique. C'est justement de dire, évidemment... Non mais soyons clairs aussi, c'est de dire... Là où certains veulent déstabiliser nos principes républicains, nous allons y opposer la force républicaine de manière très claire et ne rien laisser passer de manière systématique. Regardez ce qui se passe à Sciences Po, par exemple. Moi, j'étais tellement fière d'avoir fait cette école. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai honte de voir ce qui s'y passe. Et je ne suis pas la seule ancienne élève à avoir honte de voir ce qui s'y passe, d'y voir ces débordements, d'y voir que des étudiants, parce qu'ils sont juifs, ont été interdits d'un amphi. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Le Premier ministre s'est rendu immédiatement, a rappelé que la loi qui s'appliquait, c'était la loi de la République, y compris dans un lieu qui est supposé être un lieu d'élitisme, en tout cas républicain, de capacité à forger, en tout cas demain, des élites. C'est la ministre de l'Enseignement supérieur qui, immédiatement, dès après le 7 octobre, a fait une circulaire en disant partout « Je vous demande une attention spécifique pour qu'aucun étudiant juif ne puisse être inquiété du fait qu'il soit juif ou du fait qu'on lui prêterait certaines intentions. » Donc, vous voyez bien que nous, à chaque fois, on ne laisse pas passer, on agit. Ce n'est pas juste de la réaction, c'est qu'on agit.
Cette semaine encore, il y a eu des mouvements à Sciences Po.
Ouais, je le sais bien.
Oui.
Je le sais bien, malheureusement.
Donc, on peut faire toutes les circulaires qu'on veut.
Non, on ne peut pas faire toutes les circulaires qu'on veut. Ce n'est pas juste on fait des circulaires et on se donne bonne conscience. C'est de dire que déjà, on reconnaît qu'on subit des difficultés et des attaques. Et donc, à un moment, il va falloir qu'on résiste et qu'on résiste ensemble. Et donc, il faut aussi qu'on remette d'équerre ce qui, parfois, a été perturbé par des années et des années où on a laissé faire, où on a préféré ne pas voir, ne pas regarder. Et on s'est dit que ce n'était pas grave si ça décourageait des enseignants, si ça désincitait des parents de faire confiance aussi à l'école de la République. Non, c'est grave. C'est grave. Et donc, à partir du moment où on dit que c'est grave, à partir du moment où on caractérise bien ce qui se passe, eh bien, on se donne les moyens, enfin, de pouvoir y répondre.
La grande interview CNews Europe 1 d'Aurore Berger ce matin, ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Quand Gabriel Attal dit qu'il veut un sursaut d'autorité, Emmanuel Macron, un Grenelle sur la violence des jeunes. Pourquoi cette prise de conscience arrive-t-elle si tard, après 7 ans de quinquennat Macron?
Je ne pense pas qu'elle arrive tard, parce que l'une des premières actions qu'on a faites depuis 2017, c'est justement, quand on parle de réarmement, c'est déjà de redonner des moyens à nos policiers, à nos gendarmes, qui en avaient considérablement été privés de moyens humains, de moyens matériels, de moyens immobiliers, parce que ça commence quand même par là. C'est aussi une loi de programmation sur la justice, parce que c'est les deux qui fonctionnent ensemble, c'est les deux jambes, c'est la capacité évidemment de répression, de réparation, et donc évidemment les moyens nécessaires qui avaient été largement désossés quand même dans la justice de notre pays. Donc il y a ça.
Mais
et
vous après... avez vu, par exemple, excusez-moi de vous couper, Aurore Berger, mais policier municipal qui s'est fait renverser par un jeune homme qui fait un rodéo. Le jeune homme est en liberté. Il sera jugé dans quelques semaines.
On a changé le code de justice pénale des mineurs, justement, enfin pour accélérer. Parce qu'on se rendait compte de quoi? Et on l'a fait dès le précédent quinquennat. Donc on n'a pas attendu là 2024. Qu'en général, les mineurs qui étaient appréhendés, ils étaient jugés une fois qu'ils étaient majeurs. Donc ça n'avait plus aucun sens. Ça n'avait plus aucun sens de réparation par rapport à la victime, parce que l'enjeu, c'est aussi la réparation vis-à-vis de la victime. Et ça n'avait plus aucun sens sur la signification de la peine, parce que si vous êtes appréhendé à 15 ans, que vous êtes jugé à 18 ou 19 ans, on peut espérer peut-être que vous soyez amélioré, ou si jamais la situation s'est dégradée, la sanction arrive trop tard. Donc on a considérablement réduit ces délais-là. Et ça, c'était quand même absolument nécessaire. Et ça supposait justement que la justice ait des moyens aussi pour pouvoir agir et agir. Mais vous savez, j'étais nommée au gouvernement, j'étais d'abord ministre des Familles, je suis aujourd'hui ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes. À l'époque, j'avais parlé de ces questions justement d'autorité, notamment d'autorité parentale. Qu'est-ce que j'ai pas entendu quand j'ai parlé justement de cette question-là? Quand j'ai parlé de la question des parents, où j'avais dit oui, il y a des situations où clairement les parents sont défaillants, où il n'y a plus de cadre, où il n'y a plus d'autorité. Et le creuset quand même à la fois de la sécurité qu'on doit vous apporter en tant qu'enfant et du cadre d'autorité aussi qu'on doit vous délivrer, il se passe où? L'école, elle peut réparer, mais c'est d'abord les parents.
On commence à entendre cette petite musique, mais il faut responsabiliser les parents. Les parents, dans la majorité des cas, le père et la mère. On parle souvent des mères, assez peu des pères.
Mais je suis bien d'accord, mais parce qu'on s'est habitué à considérer que c'était normal que les mères soient toutes seules et qu'elles soient seules en première ligne à devoir tout gérer.
Alors que souvent, on connaît le père.
Alors
dans la majorité des cas, on connaît le père.
Les familles monoparentales, il faut quand même être clair, c'est très très rarement une situation choisie par la femme.
Bien sûr.
C'est une situation qu'elle subit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se retrouve avec des femmes seules qui doivent faire front, qui doivent faire face sur justement tous les fronts. Et la société s'est accommodée de ça. Nous, on a amélioré la situation, notamment d'un point de vue financier, parce qu'en plus, on avait des pères tellement défaillants qu'ils ne payaient même plus de pension alimentaire. Ça, on l'a réglé. On prend en charge justement la pension alimentaire. C'est nous qui allons rechercher la responsabilité du père. Et puis surtout, le sujet maintenant, c'est la responsabilité civile. Prenons ce qui s'est passé pendant les émeutes. Ce qui s'est passé pendant les émeutes, c'est une surreprésentation des mineurs, et notamment de mineurs qui sont issus de ces familles monoparentales. Dire ça, c'est pas pointer du doigt ces familles monoparentales. C'est juste décrire la situation telle qu'elle est, parce que c'est plus dur. C'est évidemment plus dur quand vous êtes seul et quand vous devez faire face à tout. Et la situation la plus invraisemblable, c'est quand le mineur était appréhendé, on disait c'est la mère seule qui va payer. Ben non, c'est pas parce qu'elle est seule à la maison avec son enfant qu'elle doit faire face seule. Donc on va aller chercher la responsabilité des deux parents. Moi, je veux pas qu'on accepte une situation où on se dit, bah, après tout, les femmes ont été laissées seules et la société va l'accepter. On ne doit pas laisser ces femmes seules. C'est la question des internats pour accompagner aussi ces enfants. C'est l'accompagnement spécifique qu'on doit avoir pour les familles monoparentales. Mais c'est aussi poser un cadre clair, finalement assez basique, et de dire qu'on peut se quitter dans un couple, mais qu'on ne quitte pas ses enfants. Et donc, on a une responsabilité vis-à-vis d'eux pour toute notre vie durant.
Les chiffres du ministère de l'Intérieur montrent que les étrangers sont surreprésentés parmi les mises en cause dans les affaires de délinquance en France. On en parlait en début de semaine sur CNews. Pourquoi ne réduit-on pas l'immigration plus drastiquement?
Elle a été réduite. Elle a été réduite. Vous voyez bien que de manière continue depuis 2017, que ce soit les deux lois que nous avons fait adopter, non sans mal, parce que parfois ça a été difficile de trouver des alliés pour faire voter ces lois. Mais on a permis plus de reconductions à la frontière. On sait bien que c'est toute la difficulté.
C'est
la difficulté, c'est quoi? C'est d'arriver à faire exécuter. Maintenant, le symbole de l'immigration est devenu la question des OQTF. Est-ce qu'on arrive ou pas à faire reconduire à la frontière?
Au 100% qui était l'objectif d'Emmanuel Macron, on en est.
Mais qui doit rester évidemment notre objectif, puisque c'est tout simplement le principe de faire appliquer les décisions qui sont des décisions administratives et des décisions de justice. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est des discussions aussi difficiles d'État à État. Ceux qui vous promettent que demain, par le simple fait miraculeux de leur arrivée au pouvoir, 100% des OQTF, dès le lendemain, seraient exécutés, mentent et savent qu'ils mentent. Parce que ça suppose quoi? Ça suppose une coordination européenne, une réponse européenne, et ça suppose une coordination aussi d'État à État pour être en capacité à un moment d'être souverain, tout simplement, dire qui on accueille, qui on accepte et qui on n'accepte pas sur le territoire de la République.
Aurore Berger, deux dernières questions, on est pris par le temps, bien malheureusement. Jean-Luc Mélenchon s'est attaqué à CNews hier en parlant, je cite, de chaîne infâme. Quelle est votre réaction?
Écoutez, je suis chez vous ce matin, donc je ne dois pas partager son avis. D'autant plus qu'hier, je l'ai quand même entendu mettre sur un pied d'égalité un président d'université avec Eichmann. Je l'ai entendu parler de la rafle du Veldiv aussi, comme si c'était à mettre là aussi sur le même pied d'égalité qu'avec le fait que la République, là encore, a tout simplement dit que la conférence, soi-disant, qu'il voulait donner n'avait pas lieu d'être dans une université parce qu'il y avait des risques de troubles à l'ordre public. Donc vous voyez bien qu'on franchit chaque jour un cap dans l'indécence. Le risque, c'est aussi d'en parler, parce qu'on lui donne aussi une audience, et c'est ce qu'il cherche. Il cherche à attiser ça, il cherche à attiser ces fractures dans la société. La meilleure des réponses, c'est les européennes le 9 juin prochain, en espérant que sa liste soit la plus basse possible, parce que je crois que ce sera la meilleure réponse qu'on pourra lui opposer au regard de la manière avec laquelle aujourd'hui il essaye de s'activer.
Alors justement, à propos des européennes, dernier baromètre OpinionWay pour CNews, Aurore Berger, votre candidate Valérie Ayé est à 19% d'intention de vote, à 10 points derrière Jordan Bardella au Rassemblement National, qui est autour de 30%, qui est à 29% dans notre baromètre. Comment ça se rattrape 10 points?
Déjà, ce serait bien qu'on accepte enfin de parler des européennes. Moi, à chaque fois que j'entends parler le candidat de l'extrême droite, il parle de tous les sujets, mais jamais des enjeux européens. Or, quand on parle d'immigration, c'est d'abord une question européenne. Quand on parle des enjeux aussi de pouvoir d'achat, c'est aussi une question européenne. Quand on parle d'agriculture, c'est une question européenne. Quand on parle de droits des femmes, j'aimerais savoir enfin la position de l'extrême droite sur ce sujet, parce qu'à Paris, ils se divisent largement quand il faut intégrer l'avortement dans notre Constitution. Ce n'est pas grâce à eux, c'est malgré eux qu'on y a réussi. Au Parlement européen, on n'a toujours pas compris quelle était leur position. Donc on a des sujets, justement, de valeurs qui méritent beaucoup de clarté et qui méritent qu'on ait, le 9 juin prochain, une majorité au Parlement européen qui, justement, soit en phase avec ces valeurs républicaines qu'on défend.
C'était la grande interview d'Aurore Berger sur CNews et sur Europe 1, ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Merci beaucoup, Aurore Berger. Bonne journée.